Les rois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du 15, du jeudi 15 septembre 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Le président angolais João Lourenço a été investi aujourd'hui pour un second mandat. En République démocratique du Congo, l'explosion d'un camion de carburant a fait au moins 7 morts dans la province du Congo central. Ici aux États-Unis, une grève majeure du fret a été évitée de justesse après un accord de principe. Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur solidarité face à l'Occident lors d'une rencontre en Ouzbékistan. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. En Angola, le président João Lourenço s'est engagé ce jeudi à être le président de tous les Angolais lors de son investiture pour un second mandat à Luanda. La cérémonie a été placée sous haute surveillance policière. Le point avec Rosine Munizero.
Dans sa prestation de serment, João Lourenço, 68 ans, a promis des augmentations de salaire ainsi qu'une meilleure rémunération des forces armées, recueillant les applaudissements. Il a aussi promis de s'attaquer au chômage des jeunes. Esperanza Maria da Costa, 61 ans, biologiste et professeur d'université, devient la première femme vice-présidente du pays. La cérémonie s'est tenue sur la place de la République, ouverte sur l'Atlantique et était bordée par un important cordon de sécurité. Quelques 15 000 Angolais ont été invités avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. L'UNITA, principal parti d'opposition dirigé par Adalberto Costa Jr., 60 ans, a gagné du terrain sur des promesses de réforme, de lutte contre la pauvreté et la corruption. L'opposant n'était pas présent à la cérémonie. Il a indiqué hier que son parti va accepter que ses parlementaires soient investis, tout en promettant des manifestations dans les semaines à venir.
En RDC, un camion-citerne chargé de carburant a explosé dans la nuit dernière dans la province du Congo central. Au moins 7 personnes ont été tuées et 16 autres grièvement brûlées. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la province. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
L'accident s'est produit à hauteur du village de Mbouba, à 120 km à l'ouest de Kinshasa. Selon des témoins, le véhicule se dirigeait vers Kinshasa et a explosé près d'un petit marché. Plusieurs morts et brûlés graves à Mbouba après une nouvelle explosion de camion-citerne sur la route nationale numéro 1, a indiqué sur Twitter le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables, pour mettre fin à ce cycle de sinistres, a commenté le gouverneur dans son tweet. La route nationale numéro 1 relie Kinshasa au seul débouché maritime de la RDC, Matadi et Boma. Un autre camion-citerne avait explosé après une collision au même endroit en octobre 2018, faisant plus d'une cinquantaine de morts.
Cameroun, le procès en appel de 39 militants de l'opposition renvoyés au 20 octobre. Le ministère public a demandé au juge de rejeter la plupart des requêtes en appel, estimant que certains actes de procédure avaient été déposés hors délai. En décembre 2021, 47 militants et cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC de Maurice Kamto, rival malheureux du président Paul Biya, réélu en 2018 pour un huitième mandat, avaient été condamnés de 1 à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion ou tentative d'insurrection. Parmi eux figurent le porte-parole et le trésorier du parti. 10 personnes ont été tuées en 2 jours d'affrontement entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Une altercation entre 2 membres de ces communautés dans la localité de Marabé, petit village à quelques 700 km au sud de la capitale N'Djamena, est à l'origine mardi des combats qui se sont ensuite propagés jusqu'à hier dans 2 villages voisins, d'après Ali Akabash, le gouverneur de la province du Moyen-Charif frontalière avec la Centrafrique. Ces violences récurrentes opposent généralement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Au Niger, 7 terroristes présumés ont été tués et une trentaine de complices du groupe djihadiste Boko Haram ont été arrêtés en 2 semaines dans le sud-est du pays, proche du Nigeria et théâtre d'attaques régulières, a annoncé ce jeudi le ministère de la Défense. Niamey a également annoncé l'arrestation de 6 complices de Boko Haram au cours d'une offensive militaire dans la zone de Toumou et affirme aussi que l'armée a intercepté le 9 septembre une trentaine d'individus de nationalité étrangère qui transportaient divers matériels destinés aux éléments de Boko Haram. Ces arrestations ont eu lieu près de Kinshandi, toujours dans la région de Diffa, la grande ville du sud-est du Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, une grève majeure du fret ferroviaire évitée de justesse après un accord de principe négocié tard hier soir et ce matin à la Maison-Blanche. Le point avec Abdou Rahmandia.
Le président Joe Biden a qualifié l'accord de grande victoire pour l'Amérique et pour des dizaines de milliers de cheminots. Remerciant les patrons de ces compagnies et les représentants des travailleurs, le président a promis davantage d'accords entre travailleurs et entreprises à l'avenir. « Je suis optimiste sur le fait que nous pouvons également le faire dans d'autres domaines », a déclaré Joe Biden. Les syndicats et la direction peuvent travailler ensemble pour le bénéfice de tous, a ajouté Biden dans une déclaration à la Maison-Blanche. Plus tôt dans la matinée, un communiqué de la présidence annonçait que les employés du rail vont être mieux payés, obtenir de meilleures conditions de travail et pouvoir garder l'esprit tranquille à propos de leurs dépenses de santé. Les négociations entre les compagnies ferroviaires et les représentants des syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire ont été âpres. Le mot d'ordre de grève devait entrer en vigueur ce vendredi. Les discussions ont duré près de 20 heures et le président Joe Biden voulait éviter à tout prix un arrêt du système ferroviaire qui serait catastrophique pour la chaîne d'approvisionnement dans ce contexte d'inflation record. Un tiers du fret américain est acheminé par voie ferroviaire.
Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont affiché ce jeudi leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux. Les deux dirigeants se sont réunis en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ce rapprochement entre Pékin et Moscou, dont les relations ne sont pas exemptes de frictions, fait figure de front face à des États-Unis qu'ils jugent hostiles. Xi Jinping, président de la Chine.
Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux.
De son côté, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé les tentatives occidentales de créer un monde à sens unique.
Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide et sont totalement inacceptables.
Vladimir Poutine a aussi salué ce qu'il qualifie de position équilibrée de son homologue chinois sur l'Ukraine. Pékin n'a ni appuyé ni critiqué l'invasion russe tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Ce sommet en Ouzbékistan doit durer jusqu'à demain vendredi et réunit plusieurs dirigeants, dont ceux de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, de la Turquie et des pays d'Asie centrale.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis ce jeudi, lors d'une visite à Kiev, que l'Union européenne soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra face à la Russie, au moment où les troupes ukrainiennes engrangent des succès. Il s'agissait de la troisième visite en Ukraine pour Mme von der Leyen, mais sa première depuis que l'Ukraine est devenue un État candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Elle avait indiqué avant son voyage que les discussions porteraient sur la manière de, je cite, « rapprocher nos économies et nos populations au moment où l'Ukraine avance vers l'accession à l'Union ». Des dizaines de milliers de Britanniques ont encore défilé ce jeudi devant le cercueil de la reine Elisabeth II à Londres, des processions auxquelles il faudra s'habituer jusqu'aux funérailles de la souveraine le 19 septembre à l'abbaye de Westminster en présence de dirigeants du monde entier. Le roi Charles III et la reine consort se sont rendus au pays de Galles pour une nouvelle séance de condoléances des autorités locales, achevant ainsi leur tournée des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles. Les Britanniques ont, eux, été invités à respecter une minute de silence en mémoire de la reine et c'était ce soir à 19h GMT. Les Nations Unies se sont félicitées jeudi du cessez-le-feu conclu mercredi soir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après 2 jours d'affrontements qui ont fait plus de 170 morts dans les deux camps. Les combats qui ont opposé les forces azerbaïdjanaises et arméniennes ces derniers jours autour de l'enclave du Haut-Karabakh sont les plus violents depuis la guerre de l'automne 2020 entre les deux républiques du Caucase. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Dans un nouveau rapport, le Fonds monétaire international a estimé que des politiques monétaires recalibrées en Afrique subsaharienne pourraient atténuer l'impact sur les biens produits localement et ancrer l'inflation. La libéralisation du commerce et la diversification des importations pourraient aider à stabiliser l'offre et les prix alimentaires régionaux, suggère le FMI, renouvelant son engagement à soutenir les pays africains. L'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a évoqué devant des ministres africains de l'environnement à Dakar l'engagement des États-Unis et de 19 pays occidentaux à maintenir à 1,5 degré la hausse des températures. Il a détaillé l'action américaine en faveur de l'Afrique comme l'octroi de plus de 8 milliards de dollars d'aide humanitaire l'an dernier et son soutien à l'adaptation au changement climatique. Au Kenya, les prix du carburant ont atteint des niveaux records avec l'annonce d'une baisse des subventions de l'État. Lors de sa prise de fonction, le nouveau président William Ruto s'est engagé à abandonner ces mesures mises en place par son prédécesseur qu'il juge inefficaces et trop coûteuses. Le prix du litre d'essence a augmenté de 12% à plus de 179 shillings, soit 1,50 $. Le gazole et le kérosène ont pris 20 et 25 shillings.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Tennis, la légende Roger Federer annonce sa retraite.
La Laver Cup, la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier événement ATP. C'est ce que Roger Federer a publié sur les réseaux sociaux. Lui qui a subi l'été dernier une troisième opération du genou droit en un an et demi. À 41 ans, la légende suisse dit prendre sa retraite au terme de ce tournoi dont il est l'inspirateur et qui se déroulera du 23 au 25 septembre. Federer totalise 20 titres de Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. Vainqueur de 103 trophées dans sa carrière, Federer n'a disputé que 6 matchs en 2020 et 13 en 2021. Il n'a pu rejouer en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021. Moins d'un mois après, Serena Williams, un autre monument du jeu, tire ainsi sa révérence.
Le monde du sport salue ce monument du tennis.
Roger, accompagné d'un cœur brisé, a écrit le numéro 1 mondial du tennis, Carlos Alcaraz sur Twitter. Je t'aime Roger, merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le tennis ne sera plus jamais le même sans toi, a publié Juan Marin Del Potro. La définition de la grandeur, la fin d'une ère, Thank you Serena, forever, a agrémenté la WTA, suivie d'une photo de Federer et Serena Williams ensemble. Selon Nadal, Raphaël n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau. Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau du jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe. Pour l'ATP Tour, Federer a changé le tennis forever. D'après Wimbledon, cela a été une chance d'être les témoins de ton voyage et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci pour les souvenirs et la joie que tu as donné à tant de personnes.
Football, quelques résultats des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions hier en Europe.
Oui, la Juventus est déjà au bord du gouffre. Les Bianconeri ont concédé leur deuxième défaite en 2 semaines à domicile devant Benfica, 1-2. Erling Haaland a terrassé son ancien club Dortmund pour offrir une victoire à l'arraché 2-1 à Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. 2 matchs, 2 buts grâce à Fede Valverde. Décisif en fin de match, le Real Madrid a arraché un succès 2-0 à domicile contre Leipzig. Le Napoli du Nigérian Victor Osimhen et du Camerounais Franck Zambo Anguissa a battu les Rangers 3-0. un but partout entre le Red Bull de Salzbourg et Chelsea d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Cameroun, une campagne contre les produits dangereux pour la santé est en cours. Organisée par le ministère de la Santé, elle cible les médicaments de la rue, les produits cosmétiques et compléments alimentaires contrefaits. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolentap.
Des tonnes de médicaments d'origine douteuse ont été saisies au marché Mokolo, le plus grand de la capitale. Les responsables du ministère de la Santé, avec l'aide des forces de sécurité, ont été fortement déployés lors de la campagne. Le docteur Solange Kouakap, inspecteur général des services et des laboratoires au ministère de la Santé publique, explique.
Le ministre de la Santé publique est descendu ici, même dans ce marché, pour dire aux vendeurs, arrêtez, reconvertissez-vous dans d'autres activités. Ça fait 3 ans qu'il est passé, les habitudes n'ont pas changé. Donc ce matin, nous sommes descendus pour dire stop aux médicaments de la rue.
Depuis plusieurs années, et contre versement des taxes au service de la municipalité et des impôts, des milliers de commerçants ont occupé tout un bloc du marché Mokolo à Yaoundé avec des médicaments de la rue. Selon Dr Frank Nana, président de l'Ordre national des pharmaciens, ce marché lucratif constitue un problème de santé publique.
Nous avons assez de pathologies, les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques, le cancer et les cécités qui sont causées par ces produits frélatés, sous-dosés et mal fabriqués qui pullulent dans nos rues. Demandons à la population de se tourner tous vers les formations sanitaires, de se tourner vers les pharmacies d'officine où il y a le médicament générique. Nous souhaitons vraiment, avec cette opération, montrer que l'autorité a pris le taureau par les cornes et qu'ils sont déterminés à éradiquer ce fléau.
La gendarmerie nationale, qui mène déjà la lutte contre les produits frauduleux, entend jouer un rôle. Lieutenant-colonel Nana II, chef de poste commandement opérationnel de la gendarmerie nationale.
Le faux médicament ne pose pas seulement un problème de santé publique, il pose également un problème de trouble à l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle la gendarmerie nationale est impliquée aux côtés du ministère de la Santé publique pour mettre un terme à ce fléau. Et dans les jours qui vont suivre, cette initiative sera portée vers d'autres régions du Cameroun.
Il y a 10 jours, le ministère de la Santé a publié la liste d'une trentaine de sociétés promoteurs agréées à mettre à la consommation les substituts du lait maternel, les aliments diététiques, les produits et compléments alimentaires au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire rime avec les collèges de proximité. Ils sont 44 collèges pour les élèves de la 6e et on les retrouve surtout en zone rurale. Leur intérêt et utilité dans ce reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Les collèges de proximité sont des établissements scolaires pour les élèves admis à l'entrée en 6e dans des villages d'accueil et des localités situées dans un rayon de 5 km. Sur le bien fondé de ces collèges, écoutons la ministre de l'Éducation nationale, professeure Maria Toukoni.
Les collèges de proximité également pour rapprocher l'école de la famille et non l'inverse. Raccourcir les distances pour les enfants, pour réduire les grossesses en milieu scolaire, régler la question des tuteurs, favoriser la scolarisation des filles, diminuer, pour ne pas dire tolérance zéro pour les grossesses en milieu scolaire.
Dans le village d'Etikoun, au département de Tiassali, à 100 km au sud d'Abidjan, l'enseignant Joseph Okonan dispense le cours de français en classe de 6e.
Pour nous faire ici, tu vois, là, tel que ça permet, voilà.
La structure du test, telle que l'introduction,
telle que présentée, oui.
Nous a permis de montrer que ce test est un test argumentatif.
Voilà, très bien.
Denis Yao Kofi est le chef du village d'Etikoun. Pour cet ancien fonctionnaire à la retraite, ce collège vient soulager les parents.
Nos enfants se déplacent à des milliers de kilomètres. Nous avons problème de tuteurs. Et nos filles, 2 ou 3 mois, elles reviennent avec des grossesses. Avec la venue de ce collège-là, c'est une joie pour nous.
Dans le village de Moronou, département de Toumodi, à l'est du pays, aussi c'est la satisfaction. Séraphin Conan, porte-parole de la mutuelle de développement du Moronou.
Ce collège a été longtemps attendu, espéré. Nous ne pouvons que dire merci à toutes ces autorités qui ont permis la réalisation de cet ouvrage.
Dans le département de Zonoula, le village de Paoufla accueille son collège. Arsène Zamble Biba, président de la mutuelle de développement des cadres de Paoufla.
D'ici à Zonoula, ça fait 15 kilomètres. Aller-retour, ça fait 30 kilomètres. Pour un enfant de 10 ans, vraiment, c'est un souci pour nous. Donc, nous sommes très contents.
À Labokro, dans le district autonome de Yamsokro et à Sissedougou, dans la région de la Bagoué, on écoute d'abord les parents.
Le premier collège est venu, ça m'a tellement plu que vraiment, je ne sais pas comment dire un mot. Quand ils sont proches de nous, nous gagnons beaucoup.
Les collèges de proximité, la politique est vraiment louable.
Les élèves aussi n'ont plus beaucoup de soucis comme marcher des heures pour aller à l'école.
Nous n'avons pas besoin de faire des kilomètres pour venir à l'école.
Ça permet aussi à ma mère de pouvoir bien m'encadrer.
Ici, c'est facile de trouver de la nourriture. Nos professeurs sont proches de nous pour nous expliquer.
Demain, je vais devenir professeur.
Et l'État de Côte d'Ivoire prévoit en outre de mettre à disposition 58 autres collèges de proximité d'ici décembre prochain. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les compagnies ferroviaires et les syndicats, représentant principalement les conducteurs de trains, sont parvenus à un accord de principe pour éviter une grève majeure du fret dans le pays. L'annonce a été faite par le président Joe Biden dans un communiqué qui parle d'une victoire importante pour l'économie et le peuple américain. L'accord prévoit que ces employés du rail vont être mieux payés, obtenir de meilleures conditions de travail et pouvoir garder l'esprit tranquille à propos de leurs dépenses de santé. Yakuba Ouedraogo a joint à Washington l'analyste René Lick.
La première raison qu'ils ont évoquée, c'est celle des conditions de travail et en particulier la question des arrêts maladie, hein, ce qu'on appelle le sick leave ici aux États-Unis, en disant qu'il y avait une surcharge de travail, ils sont en sous-effectif. Et donc, les conditions de travail sont absolument très mauvaises et elles n'étaient plus supportables pour les travailleurs. Et ça rentre un peu dans le cadre général de la situation Covid et post-Covid, où il y a une diminution de présence d'employés dans les lieux de travail. Et leur secteur est un secteur qui a été particulièrement touché de ce point de vue-là.
Quelles allaient être les conséquences d'une telle grève des cheminots sur la vie des Américains?
D'abord, le premier chiffre que je peux vous donner, c'est 2 milliards de dollars par jour de pertes pour l'économie américaine. C'est absolument énorme. Vous savez, 28% du mouvement de fret à l'intérieur des États-Unis se fait par chemin de fer. Donc vous voyez ce que cela représente. Qu'est-ce qui passe donc sur les chemins de fer? C'est tout ce qui est alimentation, c'est l'essence, le charbon, la mobilité des automobiles, au sens où, vous savez, les voitures qui se vendent, les voitures qui s'achètent, 75% est déplacé par le chemin de fer. Et en plus de ça, plus de 12,5 millions de passagers tous les jours utilisent Amtrak, qui est l'une des principales compagnies de transport ferroviaire. Donc plus de 12,5 millions par jour de passagers auraient été complètement déstabilisés par une telle grève.
Le président Joe Biden a annoncé un accord de principe trouvé avec les syndicats des cheminots. Sur quoi porte cet accord?
Le point principal, et c'est assez révélateur, c'est l'augmentation de 24% des revenus des cheminots. Pourquoi je dis que c'est assez étonnant? Parce qu'ils ont beaucoup insisté, les syndicats, les deux principaux syndicats en particulier, en disant, écoutez, notre revendication première n'est pas une revendication d'argent, c'est une question de conditions de travail. Or, l'un des points essentiels d'accord aujourd'hui a été l'augmentation de 24%. Mais ceci dit, ça peut se comprendre, parce qu'il est évident qu'en augmentant les revenus des cheminots, il est évident que de facto, ça améliore les conditions de travail.
Les Américains font déjà face à une forte inflation. Quel est l'impact d'un tel accord trouvé avec les cheminots à moins de 2 mois des élections de mi-mandat.
Je ne pense pas qu'il sera significatif. Ce qui pourrait poser problème, ce serait plutôt que d'autres secteurs de l'économie américaine se disent « Ah, mais écoutez, pourquoi pas nous ?» et que l'on se retrouve dans une situation de grève en série. Déjà que dans le secteur de l'éducation, il y a également beaucoup de mouvements depuis quelques mois. On est à 55-54 jours de l'élection. Je ne pense pas que cela va jouer un rôle déterminant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, qui se considère être le plus pro-syndicat des présidents des États-Unis, a gagné là une victoire importante, parce que cela aussi aurait été désastreux pour lui politiquement, parce qu'il s'est toujours présenté, ce qui est vrai du reste, comme l'ami des syndicats, l'ami des travailleurs. Ça aurait été désastreux politiquement pour lui si cette grève était maintenue.
C'était l'analyste René Lake. L'Assemblée générale des Nations unies se déroule cette année à l'ombre de la guerre en Ukraine. Parmi d'autres défis à relever, l'inflation générale et les pénuries alimentaires ont plongé des millions de personnes dans le dénuement, dans un monde qui peine à se défaire de ses multiples crises. Un récit de Nathalie Barge sur les réactions de participants recueillis par Margaret Bischer, correspondante de VOA aux Nations unies.
Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Assemblée générale cette année a lieu à un moment de grand péril.
Notre monde est ravagé par la guerre, frappé par le chaos climatique, marqué par la haine et humilié par la pauvreté, la faim et les inégalités.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter de la guerre en Ukraine, où la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est particulièrement préoccupante. Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
We are playing with fire.
Nous jouons avec le feu. Nous ne pouvons pas continuer dans une situation où nous sommes à un pas d'un accident nucléaire. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ne tient qu'à un fil.
Les responsables occidentaux, quant à eux, veulent raffermir le soutien de certains pays qui pourraient faiblir à mesure que la guerre se poursuit. Richard Gowan, directeur ONU pour le Centre de réflexion International Crisis Group.
De nombreux pays africains et asiatiques ont des relations sécuritaires ou économiques avec la Russie. Et même s'ils étaient prêts à critiquer l'invasion en mars, ils ne veulent pas continuer à se battre avec Moscou à l'ONU.
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix alimentaires aggravent la situation en Afrique, dépendante du blé russe et ukrainien. 20 millions de personnes risquent de souffrir de la faim, dont près de 8 millions en Somalie. Abdirahman Abdi Shakour, envoyé spécial de la Somalie à l'ONU.
The famine is real and it's happening.
La famine, c'est une réalité et ça se passe en ce moment.
Antonio Guterres vient de rentrer du Pakistan où des inondations meurtrières ont submergé un tiers du pays.
Ce qui se passe au Pakistan démontre l'insuffisance de la réponse mondiale à la crise climatique et l'injustice au cœur de celle-ci.
Certains discours et réunions de l'Assemblée générale des Nations unies seront différés car plusieurs dirigeants arrivés à New York se rendent à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth le 19 septembre.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Show.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.